Europe 1, il est midi.
Europe 1 midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1, toujours en direct du studio Europe 1 de Roland-Garros. On sera avec Axel May sur les cours, on sera avec Cédric Pioline qui sera avec nous en studio, on sera également avec Hervé Dutu à partir de 12h45 qui a commenté la finale historique s'il en est entre Yannick Noah et Mats Wilander il y a 40 ans, c'était en 1983. À la une du journal d'Europe 1 Midi aujourd'hui, la colère de dizaines de clients de la marque Renault. Ils vont déposer plainte lundi. Ils ont rencontré des problèmes de casse-moteur et de surconsommation d'huile. Les informations d'Aurélien Fleureau dès le début d'Europe 1 Midi. La lutte contre les incendies de forêt. Emmanuel Macron se rend dans le Gard aujourd'hui. Inauguration de la carte quotidienne de la nouvelle météo des forêts. Reportage auprès des pompiers déjà sur le pied de guerre avec Stéphane Burgat. Et puis on sera avec Éric Brocardi à partir de midi 20, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et avec vous bien sûr au 01 80 20 39 21. Est-ce qu'il faut faire des efforts supplémentaires pour le climat? Tiens, certains veulent nous imposer seulement 4 vols en avion au cours de notre vie. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Vous appelez le 01 80 20 39 21 pour réagir. On est endetté à hauteur de 3 000 milliards d'euros. L'agence de notation Standard & Poor's risque de dégrader ce soir la note de la France. La dette française a triplé en 20 ans. Elle a fait x3 en 20 ans. Baptiste Morin sera en direct avec nous. La tendance météo avec vous, Marlène Duret. Bonjour Marlène.
Bonjour Romain. Plutôt ensoleillé un petit peu comme ces derniers jours, en tout cas sur une petite moitié nord avec une belle amélioration près de la Manche cet après-midi et puis une évolution orageuse au sud.
Merci Marlène et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1 midi.
L'alliance Renault-Nissan fait-elle face à un scandale autour de la conception de ses moteurs? Plusieurs centaines de clients déposeront lundi une plainte au pénal contre Renault et Nissan pour des moteurs défectueux. Aurélien Fleureau avec nous, spécialiste transport d'Europe 1. Aurélien, bonjour.
Bonjour.
Ces clients accusent l'entreprise d'avoir vendu des voitures avec des moteurs qui surconsomment de l'huile et donc qui s'usent de façon prématurée.
Oui, c'est la nouvelle étape d'une longue procédure judiciaire. Jusque-là, environ 1800 automobilistes avaient rejoint une action de groupe pour dénoncer effectivement cette surconsommation d'huile de voitures équipées de moteurs à essence 1.2 TCE fabriqués par Renault entre 2012 et 2016. Un peu plus de 130 000 véhicules en France selon le constructeur, avec pour conséquence une possible casse moteur. En général, après 40 000 km parcourus, cette fois, ce sont déjà 400 personnes qui vont donc déposer plainte au pénal, dont Olivier Blanchet, personnellement concerné, et président de l'association des victimes du Motorgate.
Quand un véhicule perd de sa puissance et passe de 130 km/h à 50 sur voie rapide, ce véhicule met en danger non seulement ses occupants, mais également les usagers de la route qui l'entourent. Et c'est vraiment pour alerter sur les défaillances de ces moteurs, et puis pour éviter bien entendu que cela se reproduise à l'avenir, que les constructeurs restent dans le déni et traitent par le mépris leurs clients.
La plainte sera déposée pour tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et pratique commerciale trompeuse. Renault répond de son côté que 93% des cas clients identifiés ont été pris en charge et que les véhicules restent sûrs et conformes à la réglementation. Ce n'est pas l'avis des plaignants et de leur avocat qui s'attend à une nouvelle bataille judiciaire de longue haleine.
Aurélien Fleureau, merci Aurélien. Cette fois, il ne sera pas possible de reculer, de faire machine arrière. Le Conseil d'État a donné hier au gouvernement 2 mois pour prendre l'arrêté mettant en place le contrôle technique pour les 2 roues motorisées, conformément à une obligation européenne que la France a toujours rechigné à appliquer. À ce stade, la date exacte à laquelle les motos et les scooters seront soumis au contrôle technique en France n'est pas connue. 2023 sera-t-il l'été d'un record sur le front des incendies? Après un été 2022 dévastateur, on s'en souvient tous, Emmanuel Macron est aujourd'hui sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes, dans le Gard, un département traversé par les flammes chaque année. Arthur Delaborde avec nous. Bonjour Arthur. Arthur Delaborde. Bonjour Arthur. Alors, on va retrouver Arthur Delaborde dans quelques instants. On a quelques difficultés de liaison. Voilà, on va retrouver Arthur Delaborde dans un instant. Mais tout d'abord, ce reportage. Emmanuel Macron va donc s'adresser aux pompiers. Il veut préparer la saison des feux. Une saison des feux qui a déjà commencé dans certains territoires, comme les Bouches-du-Rhône. Les pompiers restent sur leur garde. Écoutez ce reportage du correspondant d'Europe 1 dans les Bouches-du-Rhône, Stéphane Burgat.
Une colonne de camions-citernes se positionne autour d'un centre équestre. Derniers exercices avant l'été, les sapeurs-pompiers révisent leur gamme.
On a un vent de nord-ouest qui va entrer à gauche au niveau de la carrière.
Allez, c'est reçu.
Après un automne puis un hiver sec, les épisodes pluvieux sont quasi quotidiens ici depuis 2 semaines, mais pas de quoi rassurer le commandant Frédéric Thomasson.
Très clairement, ça ne fait que retarder la sécheresse. Alors c'est déjà ça de prix, bien évidemment. On espère avoir une saison plus calme que l'année dernière. Ça n'empêche pas qu'on reste en alerte. Si on prend un épisode de vent un petit peu important, on va rapidement monter en risque. Ça veut dire qu'à la moindre étincelle, ça partira très fort.
D'autant que les pluies peuvent être très localisées. Les pinèdes autour de l'étang de Berre sont déjà sèches, observe le lieutenant Fabrice Carboni de la caserne de Martigues.
Bah pour l'instant, au niveau pluie, on n'est pas très bien, quoi. Il pleut de partout dans les Bouches-du-Rhône, sauf chez nous, ou très peu, quoi. Bah, disons que ça commence à être sec, quoi. Mais comme vous pouvez le voir, c'est jaune, les arbres commencent à souffrir.
Et les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône qui se tiennent prêts également à venir en renfort dans d'autres départements. Cet été encore, la coopération sera la clé. Marseille, Stéphane Burgat.
Voilà, et on a retrouvé Arthur Delaborde. Bonjour Arthur.
Bonjour à tous.
Vous suivez le président de la République pour Europe 1, vous êtes en direct de Nîmes. Avec le début de la campagne des feux de forêt, Emmanuel Macron va évaluer les renforts déployés cet été pour lutter contre les incendies. Hein.
Exactement, l'avion d'Emmanuel Macron vient d'atterrir ici sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes-Garon. Le président va échanger avec l'ensemble des acteurs mobilisés. Il vient s'assurer que les décisions qu'il a annoncées à l'automne pour renforcer les moyens de lutte contre les incendies sont bien mises en œuvre sur le terrain. L'Élysée, en tout cas, dresse un bilan d'étape positif avec notamment 9 appareils aériens supplémentaires, de nouvelles colonnes de pompiers de renfort mobilisables et des progrès vers la création d'une 4e unité militaire de sécurité civile. Emmanuel Macron va aussi lancer aujourd'hui la météo des forêts dont le premier bulletin sera diffusé. Sur le modèle des vigilances pour les orages, cette nouvelle carte de prévision présentera à l'échelle départementale le degré de risque par un code couleur allant du vert au rouge. L'objectif, c'est d'en faire un outil de mobilisation collective, alors que selon les professionnels, cet été s'annonce encore très difficile sur le front des incendies.
Arthur Delaborde, en direct de Nîmes, est dans Europe 1 Midi. Merci beaucoup, Arthur. Tiens, cette carte des météos des forêts, est-ce que vous pensez que ça va être utile ou pas? Est-ce que c'est un gadget ou pas? Vous pouvez appeler le 01 80 20 39 21. La France repasse sur le grill des agences de notation. Après la mauvaise note infligée par Fitch, fin avril, puis par Scope, l'économie tricolore va faire l'objet d'une nouvelle appréciation de Standard & Poor's. Le risque, ça serait de passer de AA à AA-. Bon, on le saura ce soir. De quoi effrayer les investisseurs, faire grimper les taux d'emprunt et donc le poids de la dette. Barthélémy Philippe avec nous. Bonjour Barthélémy.
Bonjour à tous, bonjour Romain.
Pour éviter ça, pour éviter un scénario noir, la France joue les bons élèves, hein ?
Oui, Bruno Le Maire a longuement échangé avec les analystes de l'agence pour détailler la trajectoire budgétaire de la France à l'horizon 2027. Bercy veut contenir la dette publique près de 3 000 milliards d'euros actuellement et réduire le déficit à moins de 3% du PIB contre près de 5% aujourd'hui. Elisabeth Borne a demandé à ses ministres d'identifier 5% d'économies potentielles dans leur périmètre. Et puis le gouvernement a gelé 1% des dépenses publiques prévues en 2023, soit près de 2 milliards d'euros.
Alors, Barthélémy, si Standard & Poor's venait à dégrader la note de la France ce soir, qu'est-ce que ça changerait exactement ?
Eh bien, en réalité, pas forcément grand-chose. D'abord parce que, selon l'économiste Marc Toiti, les agences sont moins influentes qu'avant.
Les agences de notation n'ont plus la crédibilité qu'elles avaient il y a encore quelques années. On a des taux d'intérêt qui ne sont pas à l'aune de ces dégradations, donc c'est vrai que l'impact n'est pas énorme. Potentiellement, le risque est faible, il faut quand même être prudent, ça peut quand même jouer à la hausse sur les taux d'intérêt.
En tout cas, fin avril, la baisse de la note de Fitch n'avait pas eu d'effet sur les taux d'emprunt. La dette française reste une valeur sûre pour les investisseurs qui ont confiance dans nos capacités de remboursement.
Barthélémy Philippe avec nous. Merci beaucoup Barthélémy. Entre 400 et 600 000 personnes attendues dans la rue mardi prochain pour la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, dont 40 à 70 000 dans la capitale. C'est une information Europe 1. Entre 1 000 et 1400 éléments radicaux sont attendus dans Paris mardi prochain. Restez bien avec nous, on est toujours en direct de Roland-Garros. On sera avec Cédric Pioline juste après la publicité. On sera avec Axel May. Et puis, on verra également dans un instant comment l'organisation du tournoi fait pour que les pigeons ne viennent pas embêter les joueurs pendant les matchs. Et oui, il y a quelque chose qui est organisé pour éviter que les pigeons viennent embêter les joueurs. C'est Inès Zegloul qui va tout nous dire. Restez bien avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1 midi, Romain Desarbres.
Et nous sommes toujours en direct de Roland-Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi de Roland-Garros. Porte d'Auteuil, il n'y a pas que les balles qui fusent dans le ciel. Inès Zegloul est avec nous. Bonjour Inès.
Bonjour.
Vous vous baladez depuis ce matin dans les allées de Roland-Garros. Et Inès, vous avez fait une drôle de rencontre.
Et oui, Romain, des cerfs, un bec, l'œil vif qui scrute les hauteurs du Philippe Châtrier.
Alors là, c'est Toa que j'ai sur le bras. Buse de Harris, petit aigle du Mexique, donc une espèce qu'on va trouver qu'en Amérique du Sud. C'est la grosse terreur des pigeons à Roland-Garros.
Toa, la buse, appartient à Michael Fauconnier du tournoi parisien depuis 2 ans. Son métier est évidemment celui de ces deux oiseaux, c'est de survoler le court central depuis l'aube pour effaroucher les volatiles.
Alors l'effarouchement, c'est de faire croire aux pigeons qu'un prédateur est sur place en permanence. Et donc du coup, ça les pousse à aller voir ailleurs s'ils sont plus tranquilles.
Et oui Romain, parce que salisseur de tribunes, fauteur de troubles pendant les matchs, les pigeons ici, c'est un vrai fléau. Alors depuis 12 ans, la Fédération française de tennis a déclaré la guerre aux oiseaux importuns et elle a tout imaginé pour s'en débarrasser. Porte d'Auteuil, installer des pics diffusés, des sons stridents. Les organisateurs ont fini par avoir recours à cette escadrille à plumes qui avait déjà prouvé son efficacité ailleurs en Grand Chelem, par exemple comme à Wimbledon.
Merci beaucoup Inès Zegloul. Voilà des buses qui sont dressées pour faire peur aux pigeons, pour qu'ils n'embêtent pas les joueurs qui n'arrivent pas sur les courts de tennis.
Et oui, ça arrive mercredi par exemple, au match de Corentin Moutet, un pigeon s'est posé sur le fil et ils ont dû rejouer un point à cause de lui.
Ah oui, il s'est posé sur le filet.
Il y a des rebelles encore.
Donc Toa Labuse, parce que j'ai retenu son nom, Toa Labuse n'avait pas fait son travail. Merci beaucoup Inès Zegloul, merci beaucoup. Allez, on part sur les cours.
Retrouvez l'actualité de Roland-Garros avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Côté sportif maintenant, troisième tour de la compétition aujourd'hui, Axel May. Bonjour Axel.
Bonjour Romain.
Vous suivez le tournoi pour Europe 1 en ce moment, c'est Jessica Pegula qui affronte Elise Mertens sur le central, hein.
Oui, Elise Mertens, la dernière représentante du camp belge face à cette américaine Jessica Pegula, qui a notamment comme caractéristique d'être une riche héritière. Elle est devenue tenniswoman professionnelle. Elle est aujourd'hui troisième mondiale, mais le début de match n'est pas à son avantage puisqu'elle est menée 3-0 par la Belge. Sur le court central, on aura ensuite Sabalenka, la Biélorusse, numéro 2 mondiale face à un adversaire russe. Et puis Djokovic contre Alejandro Davidovic Fokina, tombeur au deux tours précédents, l'Espagnol, de ce qui est présenté comme la relève tricolore, Arthur Fils et Luca Vanaché. En session de soirée, un autre Espagnol, l'un des favoris pour le titre, Carlos Alcaraz, sera opposé au Canadien, vous avez compris ce que je voulais dire, Denis Shapovalov.
Bon, on a compris, le Canada. Axel, ils étaient 27, il n'y en a plus aucun, ce sont les Français bien sûr, tous les joueurs tricolores ont été éliminés. Dernier en lice, sorti hier soir, c'est Arthur Rinderknecht. Hein.
Oui, battu par l'Américain Taylor Fritz, ce match qui a été marqué par les sifflets d'ailleurs du public envers l'Américain. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, on se désolait quand les Bleus n'étaient pas en deuxième semaine de Roland-Garros. Là, c'est carrément zéro tricolore, zéro français au troisième tour. Triste record de 2021 égalé. Et ce matin, Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, était l'invité de la matinale spéciale d'Europe 1, délocalisée sur le court central. Et écoutez, quelle était sa réponse à ces difficultés des Françaises et des Français.
Je pense qu'on peut faire mieux. Très sincèrement, la Fédération française de tennis et le tennis français peut faire mieux. Du jour au lendemain, on ne peut pas créer une nouvelle génération. Il y a du travail à faire et ça commence dans nos clubs, dans les territoires, dès l'âge de 5 ans où on est sur les écoles de tennis. Donc tout ça est en route, mettra forcément un peu de temps.
Voilà, et on suivra donc, comme chaque année, à défaut d'avoir pu suivre les seniors, on suivra le tournoi junior où les Françaises, les Français, c'est vrai, vont régulièrement loin.
Merci beaucoup Axel May. Cédric Pioline est avec nous.
Ça bonjour Romain.
Bonjour Cédric. Hécatombe française, bon, plus aucun Français au troisième tour, comme en 2021. C'est une catastrophe ou pas? Comment ça s'explique? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est en tout cas c'est très décevant pour tout le monde, pour le tournoi et puis surtout pour les fans. Et puis c'est vrai que nous qui travaillons dans les médias, on est un petit peu à court. Il va falloir se rabattre sur autre chose, mais comme l'a dit le président Moreton, c'est un travail de longue haleine. Voilà, on n'est pas ici pour faire le procès de ce qui s'est passé les 10 ou 15 dernières années où finalement on a eu 4 joueurs fantastiques, mais on n'a pas eu vraiment de joueurs autres qui sont sortis, en tout cas sur le très haut classement, hein, au moins les 20 premiers, avec... Voilà, on pourrait se dire quel dommage que Pouille n'ait pas continué. Il a été 10e mondial à un moment. Enfin, donc, bon, après, on ne doit pas vivre avec des regrets, mais se dire qu'il y a un travail de fond, en tout cas, qui est fait par la fédération. On a Arthur Fils, Lucas Van Hache qui est là. Il y en a un autre de Bru qui a l'air prometteur. Il y en a encore un autre. Enfin, donc. Voilà, j'espère que d'ici un an ou deux, pour déjà l'édition de l'année prochaine, ça va aller mieux, parce que on peut pas se contenter, nous, grande nation tennistique, de ne pas avoir de représentants au troisième tour.
Parce que les Français veulent des champions. Hier soir, il y a eu des sifflets après la défaite d'Arthur Rinderknecht.
Alors des sifflets, oui. Alors des sifflets. Pour son adversaire, c'était pas pour le Français. Hein. Il y a eu une superbe ambiance, au contraire, un soutien incroyable, une ambiance de Coupe du Monde. Et en fait, l'origine des sifflets, c'est juste qu'à la fin du match, l'Américain Fritz a légèrement chambré le public en mettant le doigt sur sa bouche, du genre vous l'avez beaucoup beaucoup supporté, mais c'est moi qui ai gagné. Donc évidemment beaucoup de réactions. Il a même eu du mal à faire son interview sur le court. Donc voilà, bon, ça après c'est juste la petite histoire.
Ouais. Les matchs d'aujourd'hui, Djoko et Alcaraz sont sur le court.
Oui.
Pas face à face. Hein.
Pas encore face à face.
On l'attend, potentiel
demi-finale. Mais j'ai envie de dire que les choses sérieuses ou plus sérieuses démarrent, puisque Davidovic Fokina qui sera opposé à Djokovic, ça c'est un vrai bon test pour le Serbe, et on a envie de voir justement comment il va se comporter. L'année dernière à Monte Carlo, l'Espagnol avait battu le Serbe, ils ne se sont pas joués depuis. Et puis du côté d'Alcaraz, il a un joueur qui n'est pas forcément un spécialiste de terre battue, mais qui est extrêmement dangereux, le Canadien, ou le Canadois comme dirait Axel, Shapovalov, qui a de la foudre dans le bras maintenant, qui sur la longueur des matchs contre ce genre de joueur a souvent du mal à tenir et à être suffisamment constant. Mais oui, du beau spectacle et toujours un grand ciel bleu au-dessus de Roland-Garros, donc ça c'est génial.
Merci beaucoup Cédric Pioline, qu'on retrouve tous les jours, hein, dans Europe 1 Midi évidemment. La bourse à présent avec vous Claire Lemaître, qu'est-ce que ça donne à Paris? Bonjour Claire.
Bonjour Romain, c'est un CAC 40 optimiste, il gagne 1,2%, 7224 points. Les marchés tournent enfin la page du plafond de la dette américaine. Le Sénat a adopté hier soir le texte qui permet aux États-Unis d'éviter un défaut de paiement. Ça aurait été catastrophique, donc évidemment c'est un soulagement pour les marchés. Ça se passe donc bien en Europe, plus 0,9% pour Londres, plus 1% pour Francfort, plus 1,2% pour le CAC 40. On est à 7224 points.
Claire Lemaître, merci beaucoup Claire. Tout de suite, le temps.
C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
La météo avec vous Marlène Duré. Il va faire beau encore aujourd'hui.
Et oui, le pays est encore une fois partagé en deux. Alors, il faut savoir que les nuages bas qui se sont installés ce matin entre le Nord-Pas-de-Calais et le nord de la Bretagne se dissipent, hein, pour laisser place à une journée bien ensoleillée au nord d'une ligne La Rochelle-Mulhouse cet après-midi. Et puis au sud de celle-ci, eh bien, l'instabilité va redémarrer avec à nouveau des averses, parfois orageuses, attendues d'abord sur le relief avant de déborder sur les plaines environnantes, donc entre les Pyrénées, le Médoc, le Périgord, le Massif central, la vallée du Rhône, le Massif du Jura et l'intérieur de la Provence. Notez que les rivages méditerranéens resteront au sec et sous le soleil. Les températures, elles baissent un petit peu dans le nord, 15 à 20 près de la Manche et de la frontière belge. Ailleurs, on est entre 23 degrés à Paris et 29 à Lyon ou encore à Bordeaux. Et le week-end, c'est un petit peu la même tendance, avec toujours du soleil au nord et puis cette instabilité en fin de journée sur le sud du pays.
Merci beaucoup Marlène Duré.
Chez Aldi, découvrez toute l'année une sélection de plus de 100 fruits et légumes livrés chaque jour dans tous nos magasins. Tous nos engagements qualité sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
La lutte contre les incendies, on en parle dans Europe 1 Midi. On sera dans un instant avec Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et ce, alors que le président de la République est actuellement dans le Gard, à Nîmes, sur une base de la sécurité civile. A tout de suite sur Europe 1, toujours en direct de Roland-Garros.